Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bienvenue à l'écoute de Radio Foot International sur RFI dans le Café des Sports du vendredi, l'émission qui referme la semaine d'actualité autour du ballon rond dans cette émission avec aujourd'hui les habitués, ils sont là presque tous. Rémi Ngono, bonjour.
Bonjour en poste.
Super élégant aujourd'hui Rémi, je vous le signale. Xavier Barré de l'équipe MAC, bonjour Xavier.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Il lui fait face, ils se sont déjà salués, ils sont prêts. Il y a aussi Chérif Guémour de SoFoot, bonjour Chérif.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Changer de côté aujourd'hui.
Je suis passé à l'aile droite.
Ah, je me réjouis que Chérif Guémour échappe à la Rémicelle.
Et bien justement à côté de Rémi, il y a quelqu'un d'autre, c'est Eric Chorin, bonjour Eric.
Bonjour à tous.
Vous allez faire l'arbitre, le réfé aujourd'hui?
Oui, puis je me suis mis à côté de l'élégant Rémi, justement. Voilà.
Alors, au cœur des débats du jour, la CAN 2015, ses interrogations et les rumeurs autour de la compétition reine du football, eh bien, nous en parlerons depuis que le Maroc a demandé son report. On ne sait plus où la CAN aura lieu, ni quand, ni peut-être même si elle aura lieu. Une décennie pour forger une légende, 10 ans de carrière, 10 ans de but, 10 ans de record pour Lionel Messi, l'Argentin, qui est notamment le premier et le seul à avoir gagné 4 ballons d'or et marqué un quintuplé en Ligue des Champions. Mais la légende de la Pulga sera-t-elle à jamais liée à la couleur blaugrana du Barça? Selon vous, eh bien messieurs, je vous le demanderai. Le Paris Saint-Germain en danger au Stade de France, un danger qui peut venir de l'adversaire, bien sûr, le RC Lens, de la propre défense inédite des Parisiens ou encore de l'état de la pelouse déplorable déjà lors du match France-Portugal samedi dernier. Rencontre entre les extrêmes, le 18e reçoit le 3e. Radio Foot, le Café des Sports, les débats sont ouverts. Suspense autour de la Coupe d'Afrique des Nations. Suspense, question, rumeur, depuis que le Maroc a sollicité la CAF pour demander le report de la compétition pour des raisons sanitaires liées au virus Ebola. Et des rumeurs viennent parasiter en plus le manque d'informations, vous devez le savoir, sur les réseaux sociaux. Alors pour le moment, le Maroc a demandé par la voix du ministre des Sports un report en juin afin d'observer donc l'évolution du virus dans les prochaines semaines, puisque les rapports sont un peu alarmants. La CAF a par communiqué répondu qu'elle ne changeait rien à son calendrier, mais plusieurs pays ont été contactés. Eric, c'est un petit peu la nouveauté. Par le secrétaire général de la Confédération pour éventuellement prendre et au pied levé le relais du Maroc.
Oui, le Ghana et l'Afrique du Sud, on le sait officiellement.
On l'a su tout de suite. Oui, et le Ghana, dans ces dernières heures.
On a eu accès à la lettre qui a été envoyée par Danny Jordan, notamment sur Internet, le président de la Fédération sud-africaine. C'est une sorte de lettre type qui a dû être envoyée à un certain nombre de pays qu'on n'a pas vraiment déterminé. On sait au moins que c'est le cas pour le Ghana et l'Afrique du Sud, mais il y en a peut-être d'autres dans cette liste. Ils ont été contactés dans le cas d'un éventuel désistement, effectivement, du Maroc. Mais pour l'heure, le Maroc l'a bien redit par la voix de son ministre des Sports, il n'est pas question.
Ils ne s'en sont pas désistés.
Surtout, ce que dit précisément le ministre, c'est que pour l'heure, si, à ce jour en tout cas, si la CAF reste sur ses positions de ne pas vouloir reporter la compétition, ils n'ont pas encore tranché, n'ont pas encore décidé quelle serait leur attitude s'ils n'allaient pas l'organiser. Il y a le ministre de la Santé, là, apparemment, d'après un média marocain, le ministère de la Santé marocain, qui vient d'indiquer qu'il n'était pas question de revenir sur la décision de reporter la compétition pour eux, en tout cas chez eux. Donc ça veut dire que déjà entre le ministère des Sports marocain et le ministère de la Santé marocain, on n'a pas le même positionnement aujourd'hui, en attendant qu'ait lieu la réunion du comité exécutif de la CAF début novembre.
Alors là, c'est le jour où on aura véritablement une réponse à toutes les questions. Ça sera le 2 novembre, le comité exécutif se réunira à Alger, et le lendemain au Maroc avec les autorités marocaines, et c'est sûrement là qu'on aura la décision. En tout cas, la demande de report, est-ce que ça vous a surpris, vous, par exemple, Chérif? Est-ce que vous attendiez à ce qu'une demande de report, vu le contexte, on dit c'est un contexte sanitaire, mais si peu de temps, c'est-à-dire 3 mois avant le coup d'envoi, et en plus à la veille des matchs qui se déroulaient tout au long du week-end pour les éliminatoires?
Les choses se sont accélérées de toute façon au niveau de l'épidémie, donc ça c'est un fait incontournable. Ensuite, après, il y a eu...
Accélérée dans les pays où elle est localisée pour l'instant.
Oui, mais après, ça développe aussi un début de psychose et tout. Puis c'est surtout c'est l'emballement, en fait. L'emballement, il est venu à la fois du monde du tourisme, du monde des clubs professionnels européens qui ont commencé aussi à mettre la pression, des joueurs eux-mêmes. Il y a eu tout un emballement qui fait qu'on en arrive là. Il y a une confusion, mais les choses se sont vraiment accélérées en quelques jours, je dirais, par rapport à l'épidémie.
Mais il y a quand même forcément de la surprise, alors que au même moment où ils annonçaient les Marocains qui voulaient demander le report de la compétition, ils accueillaient le match de l'équipe de Guinée et de Michel Dussuyer sur son sol à Casablanca pour pouvoir jouer son match éliminatoire de la CAN.
Mais comme disait, c'est pas simplement les joueurs, c'était aussi les supporters,
c'est le déplacement des supporters. C'est ça. Leur grande crainte avancée par rapport à la CAN, c'est la venue des supporters. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura autant de supporters que ça qui vont se déplacer au Maroc
autant
pour suivre la CAN?
Est-ce que la CAN est un...
Il y en aura de toute façon.
Il y aura
des Guinéens. Il y aura pas mal de...
Non, mais on peut comprendre la méfiance à l'égard de cette épidémie qui est quand même terrible, qui touche aussi maintenant l'Europe, puisqu'il y a eu des cas en France, en Espagne.
Des cas de gens qui l'avaient attrapé, qui revenaient d'Afrique avec le virus. Elle ne se propage pas encore en Europe.
Oui, mais on sait que le propre d'une épidémie, c'est de pouvoir se propager. Avec les moyens de communication qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ça peut se propager rapidement.
Certainement.
Et beaucoup trop vite, malheureusement. Et donc, je pense que c'est une sage précaution, en tout cas, de donner le temps d'observer les choses. Alors, c'est vrai que le Maroc est a priori pas le pays d'Afrique le plus exposé à cette épidémie, puisqu'elle est située en Afrique de l'Ouest. Donc,
non, mais il dépend beaucoup du tourisme, et c'est sans doute là.
C'est là où il y a des réserves, parce qu'effectivement, si les touristes occidentaux ne venaient plus au Maroc par crainte d'attraper Ebola, ce serait effectivement terrible pour l'économie marocaine. Maintenant, est-ce que la CAF n'a pas elle-même intérêt de se donner aussi un peu de temps, et notamment de recaler carrément.
Elle se donne du temps là jusqu'au 2 novembre, certainement. Ils n'ont pas du tout avancé leur comité exécutif.
On sait que justement le gros problème de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est qu'elle est située en plein milieu de la saison, notamment européenne, que justement les clubs occidentaux qui payent les joueurs africains
sont
toujours réticents à les laisser partir.
Cause et conséquence.
Est-ce que justement c'est pas l'occasion, surtout s'il est question de l'organiser une nouvelle fois en Afrique du Sud, donc ce serait l'hiver au mois de juin prochain, justement de décaler cette Coupe d'Afrique des Nations et de la faire jouer en même temps que la Copa América, la Gold Cup ou les autres grandes compétitions internationales.
Ouais, ça c'est une question qu'on verra. Rémi, ça vous a surpris, vous?
C'est Xavier Barré qui me surprend. Xavier Barré me surprend parce que lui, il dit, bon, écoutez, le Maroc, quand même, il faudrait que... parce que c'est cette épidémie-là, c'est en Afrique de l'Ouest. Non, il faut faire très attention. Le Maroc est un pays qui est limitrophe avec qui? Avec la Mauritanie. La Mauritanie est limitrophe avec qui? Avec, bien évidemment, le Mali. Le Mali est limitrophe avec qui? Par exemple, les deux Guinées. Ce qui signifie que lorsque vous regardez logiquement, si on voudrait dire qu'un microbe est capable de rester entre les frontières, cela veut dire tout simplement que c'est une bêtise scientifique absolue, dans la mesure où aujourd'hui, que ce soit en Afrique de l'Ouest, par exemple, on m'a dit qu'il faudrait qu'on délocalise la CAN pour que ce soit par exemple au Ghana, mais attendez, quand vous partez déjà au Ghana et que le Ghana est un pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire que l'épicentre de l'Ebola, cela veut dire que vous fuyez la pluie pour aller vous jeter dans la mer. Donc moi, à une certaine période, j'ai dit que le Maroc ne peut pas se comporter comme ça, dans la mesure même, lorsque vous essayez de regarder les mouvements des frontières, par exemple en Afrique, beaucoup d'Africains aujourd'hui, et particulièrement ceux de l'Afrique de l'Ouest, se retrouvent au Maroc parce que justement ils doivent traverser pour aller en Espagne, parce que l'Espagne est limitrophe avec l'Europe. D'où vient cette politique de tamiserie, sorte d'apartheid que le Maroc est en train de vouloir inventer sous prétexte que cela, on ne peut pas les accueillir. J'ai dit, ce n'est pas possible. Le Maroc a accepté. Et quand on accepte d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations, je crois que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, les autres sont soupçonnés d'Ebola et parce qu'ils sont soupçonnés de choléra qu'on va totalement fermer les frontières et dire on ne veut pas d'eux. C'est la preuve. Tout de suite, mon confrère vient de dire que, justement, le Maroc a accueilli une équipe guinéenne. Pourquoi est-ce qu'ils ont accueilli cette équipe guinéenne-là? Et pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas accueillir les autres équipes? Non,
ouais, surtout c'est pas on n'est pas sûr que la Guinée puisse même se qualifier pour cette CAN. Pour l'instant, c'est pas très bien parti. Mais surtout, c'est ce qu'on se posait comme question nous ici au service avec le service des sports. C'est est-ce que si on délocalisait justement au Ghana, qui est finalement un pays qui se situe en Afrique de l'Ouest, ou est-ce que c'est, si ça allait en Afrique du Sud, ça serait délocaliser le problème. Mais le problème d'Ebola est au-dessus du fait que ce soit le Maroc qui organise, l'Afrique du Sud ou le Ghana.
Donc, on a l'impression que la CAF, dans ses recherches de plan B, de pays qui pourraient suppléer le Maroc pour accueillir cette CAN, le critère effectivement de la prévention, de la sécurité n'a pas l'air d'entrer en ligne de compte. Pour l'instant, ils cherchent juste un pays qui est prêt à pouvoir accueillir la compétition. Mmh. On sait que c'est le cas de l'Afrique du Sud puisqu'elle a déjà été remplaçante au pied levé de la dernière édition en 2013.
Et en 1996, elle avait déjà été au pied levé aussi.
Mmh. Oui, alors c'est des habitués. Ouais. Le Ghana, c'est un pays qui a l'habitude de recevoir la CAN aussi, qu'on a organisé une en 2008 et puis qui a été visité en vue des futures compétitions, donc il y a la possibilité de l'organiser, mais enfin le paramètre santé n'a pas l'air de rentrer en ligne de compte. C'est ce paramètre-là qui est énormément avancé par les Marocains. C'est vrai que ça tombe assez bizarrement. Il faut quand même savoir qu'ils ont annulé récemment à l'instant une compétition qui devait avoir lieu en novembre, la deuxième quinzaine de novembre. C'était une toute nouvelle compétition, une CAN de cyclisme, parce qu'il y a un vélodrome à Casablanca, il devait accueillir donc du BMX, de la piste, de la route, et le motif d'Ebola a encore été avancé pour annuler cette compétition où il devait y avoir une trentaine de pays. En revanche, le Mondial des clubs, lui, pas question d'annulation pour le moment, de la compétition, toujours dans le même pays. Donc on a l'impression qu'il y a effectivement un peu deux poids, deux mesures. De là, imaginer que le Maroc veuille qu'elle soit un peu reportée pour se donner du temps, pour être un peu plus prête à organiser, en tout cas avoir plus de mesures de prévention, pourquoi pas. On peut se demander aussi si c'est pas... Alors ça, c'est un argument qui a été avancé aussi, ça fait partie des rumeurs, parce qu'il ne serait pas prêt, ça j'y crois guère. En revanche, au mois de juin, pour le tourisme, c'est pas mal, le Maroc, la CAN au Maroc.
Xavier, est-ce que en ce moment, parce que le Maroc dit que c'est en vertu des derniers rapports de l'OMS, donc de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui conduit à la prudence, à ne pas faire trop de rassemblements entre supporters différents. Est-ce que la FIFA ne va pas se mêler au débat? Parce que tout à l'heure, vous faisiez allusion justement au fait que, d'abord, c'est au mauvais moment pour les championnats européens, mais ça, on connaît un peu la chanson. Mais par contre, il y a des inquiétudes maintenant dans les équipes européennes. On l'a vu la semaine dernière avec le Rayo Vallecano et justement ce joueur guinéen qui était parti au Maroc, qui est revenu. Et il y en a aussi même dans des équipes, Jean-Michel Aulas parlait des inquiétudes qu'il peut y avoir avec les Africains internationaux qui sont dans son équipe, par exemple. Et on va juste écouter, c'est Roland Courbis, lui, aussi évoquer cela. Lui, il a un international africain, c'est Siaka Tiené, qui est l'Ivoirien et qui vient de rentrer d'Abidjan où il jouait durant la semaine.
Il en a la prudence, dans le sens qu'il passera une visite médicale qui me paraît être logique. Après, c'est difficile d'en faire un plus quand on voit le Maroc qui demande l'annulation de la CAN et que cette annulation est refusée. Ben, on a la réflexion tout à fait logique de se dire que ça ne doit pas être bien grave. À partir du moment où on nous explique les choses et notamment cette précision là, de la CAN au Maroc qui n'a pas été donc annulée, on reste prudent mais sans pour autant tomber dans l'obsession et dans la psychose.
Est-ce que ce serait peut-être pas le moment de la FIFA d'intervenir et d'orchestrer un petit peu tout cela?
On reproche parfois à la FIFA d'être omnipotente, donc voire être excessivement présente. Donc dans cette affaire, pour le moment, laissons la CAF gérer. Voilà, moi, le seul constat que je fais, c'est qu'on l'a assez souvent dénoncé dans cette émission, c'est que le calendrier de la Coupe d'Afrique des Nations est assez incompatible avec le calendrier international en général. Et il pose un problème et il cause du tort aux joueurs africains.
Il le pose de plus en plus parce que les joueurs de plus en plus jouent en Europe.
Jouent en Europe. Et donc, cette CAN qui tombe toujours en plein milieu d'une saison pose de vrais problèmes aux joueurs africains qui ont des contrats professionnels en Europe ou d'ailleurs sur d'autres continents, mais surtout en Europe. Donc là, est-ce que justement, c'est pas l'occasion, entre guillemets, de la remettre dans le bon tempo du calendrier international?
Oh là là, mais ça fait tout le temps le même débat. Il a fallu qu'on dise que maintenant, il fallait que la Coupe d'Afrique des Nations se joue pas pendant les années impaires, ce qui a été fait. Et aujourd'hui, quand vous essayez de m'expliquer que bon, il faudrait que la FIFA se mêle parce que ceci et cela, la FIFA n'est pas capable, ne doit même pas se mêler,
c'est
puisque
ce que vous aviez,
déjà
hein.
La CAF n'a jamais réussi à écouter cela, parce que vous vous souvenez quand même, la CAF a réussi à jouer des compétitions, à faire jouer des compétitions dans des conditions gravissimes. Vous vous souvenez par exemple d'un match de la Confédération, de la Coupe de la CAF, qui devait se jouer entre Kaduna United et Espérance de Tunis, c'était au Nigeria. C'est-à-dire que l'ambassadeur tunisien a dit, c'est une zone hyper dangereuse, on ne peut pas y mettre pied, il faut qu'on reporte ça. Eh bien, la CAF a répliqué à la Tunisie que, eh bien, si vous ne vous rendez pas au Nigeria, là où il y a des enlèvements, là où il y a l'instabilité, vous avez 2 ans de suspension. Vous vous souvenez, par exemple, de la fusillade de Cabinda avec les Togolais. On savait que c'était une zone très dangereuse. Je vous prends encore le cas du 28 mars 2011. C'est-à-dire que les puissances occidentales sont en train de bombarder la Libye. La CAF continue jusque-là à programmer les matchs de la Libye contre les Comores. Et c'était où? En Libye. Et constatant qu'il n'y avait aucun avion qui pouvait aller en Libye, ils disent que, bon, ok, on va tout simplement enlever le match pour le mettre où? Au Mali. Et ils n'ont pas reporté le match, mais ils ont maintenu la date. C'est-à-dire qu'il fallait que le match se joue le 28. Les îles Comores, qui se situent dans l'océan Indien, devaient faire tout le parcours sans argent pour arriver jusqu'au Mali. Donc, à une certaine période, il faut comprendre que avec la CAF, c'est comme ça. Même s'il y a mort d'homme, il y aura compétition. Il y a un proverbe africain qui dit le fantôme n'a pas fantôme n'a pas peur du cercueil, c'est tout.
Oui, ouais, mais je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord avec cette vision très négative des choses. Si on peut éviter justement mort d'homme, et eh ben c'est bien que on le fasse. C'est bien que les institutions
Rémi ne
prennent
pas forcément. Je pense que ben,
j'espère qu'il
ne
le pense pas. Mais la façon dont il s'est exprimé est un peu équivoque.
Mais si tu veux faire jouer,
mais, donc voilà. Si par précaution on peut éviter l'expansion de cette épidémie d'Ebola et qu'on peut éviter des morts d'homme, et eh ben oui, prenons des précautions.
Mais jamais vous n'arriverez à convaincre Issaï Hatou de déplacer les dates de l'organisation de la CAN, lui qui se bat justement pour la maintenir en hiver.
Je voulais poser une question justement sur ce sujet. Mmh. Si tu veux l'organiser à la fin de la saison, tu l'organises quand? Au mois de juin? En juillet?
En même temps que la Copa América, etc. Il y aura la Copa América au Chili au mois de juin. Mm-hmm. Qu'est-ce qui empêche de faire la Coupe d'Afrique des Nations en même temps?
Et Rémi, il y a une chose aussi, une question de certains auditeurs, notamment de Pointe-Noire, qui demandait si on changeait de pays, est-ce que on devra qualifier d'office un autre pays, par exemple l'Afrique du Sud, par exemple le Ghana, à la place du Maroc?
Non. Mais je crois que cela ne s'est jamais passé, mais par contre.
Parce qu'il risque d'y avoir des sanctions contre le Maroc.
Il devrait avoir des sanctions contre le Maroc, mais quelles sanctions? On ne peut pas sanctionner le Maroc parce que déjà, il faut savoir que Issaï Hatou, quand il est élu, en 1988, il bénéficie du soutien du Maroc. Donc, il ne peut pas se retourner contre ceux qui l'ont soutenu. Ça, il faut déjà le savoir. Issaï Hatou ne va pas punir. Voilà. Donc, moi, je me dis que tout ce que on est en train de voir actuellement, il faut tout simplement faire des pressions sur le Maroc, parce que le Maroc, actuellement, on ne peut pas changer de pays. Il y a des pays qui sont quand même partis visiter des sites. Il y a des budgets qui ont été établis. Et qu'on me dise aujourd'hui que on va subitement changer de pays, ça n'a pas de sens.
Je pense que c'est arrivé plein de fois dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations.
Et je pense.
J'ai listé la vite fait. En 96, ça devait avoir lieu au Kenya. Finalement, ça s'est tenu en Afrique du Sud.
Ouais.
En 2000, ça devait avoir lieu au Zimbabwe. Finalement, c'est le Nigeria et le Ghana qui l'ont organisé.
Mais après combien de temps?
En 2013, ça devait avoir lieu en Libye à cause de la guerre. Ça s'est passé finalement en Afrique du Sud. Donc c'est pas la première fois que la Coupe d'Afrique des Nations serait déplacée au dernier moment.
Eric,
il faut pour cela effectivement que la CAF considère que les raisons de santé invoquées par le Maroc prévalent sur toute autre raison, sont justes et qu'elle puisse effectivement accepter cette décision.
Et justement, bon. Peut-être que la FIFA pourrait jouer un peu un rôle d'arbitre, peut-être pour pacifier tous les émois que peut provoquer ce déplacement ou ce report.
Un dernier mot, là aujourd'hui on est le 17 octobre, vu la façon dont l'épidémie se développe, parlons déjà, on verra un peu ce qui se passera d'ici un mois.
On n'a pas fini d'en parler.
On n'a pas fini d'en parler, c'est ça que je veux dire. Oui. Attendons d'ici un mois et ça se trouve, ça va s'aggraver. Donc là, il va falloir prendre une vraie décision.
Oui.
Mais là, aujourd'hui, là, maintenant, il y a un problème, mais comme c'est un problème évolutif et qui s'aggrave, on va attendre un peu quand même.
C'est la fin de la première partie de ce Café des Sports. On se retrouve juste après la pause et on continue à évoquer le football et Lionel Messi.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Seconde partie de Radio Foot International et seconde partie de notre Café des Sports hebdomadaire avec Rémi Ngono, Xavier Barré, Chérif Guémeau et avec Éric Chorin. Nous allons eh bien faire un petit coup de nostalgie.
J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement. Moi je rigole, cerf-volant.
Alors 10 ans, qui a 10 ans aujourd'hui? 10 ans de... C'était hier, 10 ans de professionnel.
Alain Souchon.
10 ans de carrière, alors c'est ça.
Alors 10 ans de carrière professionnelle. Eh bien une légende hein, qui est en train de s'écrire aujourd'hui encore, c'est celle évidemment de Lionel Messi, le petit Argentin du FC Barcelone, surnommé la Pulga, tout le monde le sait, la puce à cause de sa petite taille, et qui défie eh bien les meilleurs défenseurs, les meilleurs gardiens. Il a participé, voire orchestré hein, les meilleures années du FC Barcelone de cette époque, béni avec... Pep Guardiola, béni parce qu'ils ont évidemment remporté beaucoup de trophées, béni pour eux. En tout cas, quelques repères. Le premier match donc de Lionel Messi, c'était le 16 octobre 2014. Son premier but, c'était le 1er mai 2005. 2004, oui, ça fait 10 ans, donc c'était en 2004. Son premier but marqué en 2005, le premier but évidemment de professionnel. Et alors depuis, il y a eu eh bien ce 1er mai 2007, c'était un but, qu'on peut dire, de légende déjà.
Cap a la dreta per Xavi, assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, 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 i menys Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol,
gol, gol. C'était un but qu'on a comparé.
Demi-finale aller de la Coupe du Roi. Et il y avait eu 5-2 au final. C'était contre Getafe. Et là, c'était le but du 2-0.
Voilà. Et c'est des buts qu'on a comparé à celui de Maradona.
Voilà le fameux but du siècle.
Du but du siècle quand il avait dribblé la moitié d'une équipe en parcourant tout le terrain. Et puis aussi Ronaldo, le Brésilien, qui lui avait fait à peu près le même but avec le FC Barcelone quelques années avant Messi. Donc c'est des buts qui effectivement marquent l'histoire du football.
Oui. Et c'était un autre Messi. Et on le voyait avec ses cheveux longs, un peu comme les joueurs sud-américains, souvent, et notamment les joueurs argentins. Et il était félicité par Deco et Samuel Eto'o. Donc c'était un autre effectif qui a bien évolué autour de lui. Hein. Lui est le phare et on tourne autour de lui.
C'était le début de sa carrière, effectivement. À l'époque, il était encore un aspirant. Il y avait plein de stars au Barça et lui gravissait les échelons dans un club où il est arrivé à l'âge de 13 ans. Et donc, c'est vrai que c'était un de ses premiers exploits de notoriété mondiale. Et depuis, il y en a eu tellement que on pourrait faire l'heure complète d'émission.
Oui, son premier Ballon d'Or, c'était en décembre 2009. Et puis, le fameux quintuplé historique, puisque quand même, marquer 5 buts dans un même match, c'est rarissime. C'était en mars 2012. Et c'était un certain match entre le Barça et le Bayer Leverkusen. Exactement. Est-ce qu'il y a un style Messi, selon vous, Rémi?
Oui, il y a un style Messi que tout le monde connaît déjà, d'où aujourd'hui Messi, c'est dommage par rapport à la chanson que j'ai écoutée, elle était tellement vieille, de telle sorte que ça montre que Messi, c'est comme s'il faisait déjà partie du passé. Parce que tellement on ne voit plus le vrai Messi.
Ah bon?
De telle sorte. Ah non, attendez.
Le vrai, vous voyez le faux?
Non, c'est déjà la photocopie ou bien l'ombrelle de Messi. Parce que Messi, c'est vrai qu'au début, ça n'a pas été époustouflant que ça. Parce que
il a 10 ans de plus, saison, donc, Rémi.
La première saison, ça fait quand même, bon, voilà, il avait marqué 9 buts. Mais il est arrivé des moments où, par exemple, la saison 2010-2011, Messi claque quand même 73 buts. Et,
excusez-moi.
Directement, 73 buts. Mais la saison 2011-2012, la saison 12, qui suivait, voilà. Il était à 60 buts. Et depuis
il
là,
était pas mal blessé, d'ailleurs.
Et maintenant, on se rend compte que si Messi n'est pas dans une infirmerie, maintenant, il réussit quand même l'exploit de rater correctement les pénalties.
Un pénalty.
Ah oui, d'étirer. Toujours.
Contre le Brésil, c'est ça le fameux match contre le Brésil la semaine dernière.
De tirer toujours au-dessus de la transversale, de s'agacer. Et de l'autre côté, on se rend compte que c'est Neymar qui fait déjà les quadruplés. Alors là, Messi a-t-il trouvé un remplaçant?
Tu ne retiens que ça de. C'est troublant, Rémi. Tu ne retiens que ça d'un joueur absolument extraordinaire. Moi, je dirais autre chose, un peu comme Xavier. C'est-à-dire que c'est un joueur qu'on a vu arriver. C'est le divin enfant. Et comme très très souvent dans le football, on voit des espoirs arriver et on attend qu'ils confirment et qu'ils confirment au plus haut niveau. Et état de grâce, il a confirmé au plus haut niveau. C'est une belle surprise. Comme Cristiano Ronaldo, on l'attendait quand il avait 16-17 ans, il a confirmé aussi. Donc on a eu un duel de titans absolument merveilleux, peut-être quasiment unique.
Qui continue encore.
Et qui continue, et ça continue. C'est vraiment, mais on a vécu des supers années et ça continue. Donc je me réjouis ce qu'il y a eu à la fois Messi et Ronaldo. Je me rappelle qu'il y a quelques années, j'avais lu une interview de Gerd Müller et il disait, parce que Gerd Müller avait été soulier d'or, parce qu'il y a une saison avec le Bayern de Munich, il avait marqué 45 buts. Et on lui faisait remarquer qu'on disait, mais c'est plus possible d'être un buteur à 45 buts dans une saison, on ne verra plus jamais ça. Et Gerd Müller avait dit, mais non, vous trompez.
On le verra.
Un bon avançant, vous verrez, on peut marquer 40-50 buts. J'avais lu ça, je disais, mais non, le bon Gerd, il débloque. Eh ben si, on l'a vu avec Messi et Cristiano Ronaldo. Et maintenant, pour revenir à ce que disait notre Rémi. Ami Rémi, peut-être qu'en effet, il va moins marquer. Peut-être que Neymar va plus marquer, Suarez arrive, va peut-être plus marquer. Et alors, peut-être que Messi va se réinventer. C'est-à-dire, il va se créer un nouveau poste, un nouveau positionnement. Il marquera peut-être plus, il sera peut-être plus collectif, mais il sera toujours excellent, génial, et le Barça va peut-être continuer de gagner. Oui, et s'il se réinvente, moi ça me va parfaitement. Comme le grand Ronaldo, le vrai, hein, le Brésilien, c'est lui aussi réinventé à une époque.
C'est vrai que la question que posait Annie, d'ailleurs, c'est y existe-t-il un style Messi ? Et c'est vrai que ce style, c'est lié à cette capacité à créer en permanence, à innover, c'est un don naturel chez lui. Et c'est ça qui est déroutant, c'est que Cristiano Ronaldo a énormément de mérite parce qu'il est arrivé là où il est par le travail. Et
il a été programmé, on dirait.
Il a été programmé, il a bossé, et il bosse tous les matins, il fait ses 2000 abdominaux, etc. 3000 abdominaux, enfin, c'est un bosseur et il en a énormément de mérite d'être arrivé là. Léo Messi, il bosse aussi, mais il a un don naturel, il a quelque chose en plus qui fait qu'il est vraiment unique. Alors oui, il a un style inimitable parce que certains ont essayé de le copier. On annonce de temps en temps des nouveaux Messi, mais on les voit pas tellement. Neymar, on verra.
Non, des dribbleurs comme ça, c'est unique. Il y en a quelques, trois ou quatre dans l'histoire du foot.
Voilà,
dribbleurs, j'ai dit.
Il enchaîne, il a le ballon qui est collé au pied et il a une capacité d'enchaînement, une vitesse qui fait qu'il est vraiment unique actuellement. Il n'a pas d'équivalent. Il a un rival, voilà, Cristiano Ronaldo, mm-hmm. dans un registre différent. Mais au niveau du style, Messi est unique.
Xavier, une chose qui étonne toujours un petit peu, c'est la question éternelle autour de Messi, mais est-ce qu'il pourrait être le même joueur de légende sous un autre maillot et sous d'autres couleurs et dans une équipe qui ne jouerait pas que pour lui, parce qu'on sait que les entraîneurs finalement, depuis Pep Guardiola, et à raison évidemment, mais ont tourné une équipe autour de lui.
On a la réponse, une demi-réponse avec l'Argentine. Voilà. Alors, est-ce qu'aller en finale de Coupe du Monde, c'est une réussite ou un échec ? Moi, je serais tenté de dire c'est plutôt une réussite. Parce qu'une finale de Coupe du Monde, faut quand même y aller.
Je pense qu'on sera d'accord avec
voilà.
vous.
Certains feront la grise mine, la fine bouche, je vois en face de moi d'ailleurs. mais avec l'Argentine qui a été bâtie autour de lui, il est allé en finale. Et ça, c'est joué à peu de choses.
Il y a d'autres aides par rapport à 2010. Non,
vous avez le meilleur joueur du monde, Xavier Barré. Nous, on a vu Maradona, dont tu es. Décrivait tout de suite comme étant quand même aussi un joueur et tu le comparais à Messi. Mais en 86, lui, il remporte la Coupe du Monde et toi, tu applaudis Messi qui perd la Coupe du Monde. Bravo Xavier Barré, il n'y a que toi qui saches transformer
Cristiano Ronaldo en Coupe du Monde.
Nous parlons de Messi.
D'accord.
Le sujet, c'est Messi. Je te renvoie le compliment. Aujourd'hui,
Cristiano Ronaldo, trois Coupes du Monde. Il n'a jamais fait gagner le Portugal. Même pas les deux.
Xavier Barré. Et Shérif Barré, Xavier Barré, je vous barre et je vous dis que lorsque vous voulez me dire, Mani a posé une question qui était claire. Est-ce qu'il est aussi influent dans un autre système?
Oui, je réponds oui.
Et on
oui.
dit donc que Maradona, dans l'équipe d'Argentine, était influent. Il a été dans d'autres clubs et on a vu qu'il était influent. Mais par rapport à Messi, on sait que...
Vous dites non.
D'ailleurs, un beau jour, Maradona avait dit que Messi, quand il est en équipe nationale, il confond l'équipe nationale à Deportivo de Messi. Or, à chaque fois que j'ai vu Messi...
On a vu ce qu'a fait Maradona entraîneur.
Bon, écoutez...
Maradona entraîneur, même aux Émirats Arabes Unis, ils n'en ont pas voulu.
Pour l'instant, tous les grands joueurs. Moi, j'ai vu tous les grands joueurs. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on me dit que c'est Pep Guardiola, pour que Messi brille, il faut qu'on se débarrasse de tout le monde qui peut faire qu'il soit, qu'il soit sous l'ombre. On s'est débarrassé de Ronaldinho, de Deco, d'Eto. On s'est débarrassé de Zlatan Ibrahimovic. On a par exemple
ils vu. Ils n'ont pas eu tort,
voilà. Rémi. Même Fabregas a dit qu'il ne peut pas jouer dans ce système-là. Et regardez comment est-ce qu'il est en train de briller là-bas. Regardez Alexis Sanchez. Il est arrivé, il n'a pas réussi. David Villa, il est arrivé, il n'a pas réussi. Messi est égoïste, égocentrique, incompatible avec tout le monde. Il est seul dans le monde, évolue seul.
Est-ce que Messi peut réussir dans un autre club? Déjà, le fait que le Barça ait évolué, parce que... On parle d'un autre club.
Tout l'effectif autour de lui.
Bah oui, quand on voit toute l'évolution qu'il y a eu exactement depuis 10 ans au Barça, mais pour moi, c'est déjà une autre équipe. Alors, c'est le même club, mais c'est d'autres équipes. Et il a toujours trouvé sa place. Et sinon, maintenant, si on parle de l'épanouissement éventuel de Messi dans un autre club, moi, je pense que oui, il réussirait. Sans aucun problème.
Bon, bah écoutez, son père qui a donné une interview dans une radio en Argentine a dit que peut-être que éventuellement, mettez-le. Mais on connaît qu'il y a une énorme somme hein, pour lui permettre de quitter le Barcelone à
mettez-le
payer.
Mettez-le à Manchester United, il marquera 25 buts par saison. Vous le mettez au Bayern, il mettra 25 buts par saison. J'en doute pas un instant, un seul instant.
En tout cas, il y a un certain Marius Trésor sur la page Facebook qui nous a accusé d'être Radio Messi. Alors, Alejandro n'est même pas là aujourd'hui, mais quand même, on ne pouvait pas passer sous silence les 10 ans de carrière de ce génie du football. Et alors Marius Trésor, il a mis un proverbe pour vous, Rémi. Alors nous accusons nous évidemment, mais il dit à force de laver la tête d'un singe, on finira par perdre son savon. Hein, vous pouvez mettre ça dans votre petit répertoire.
Ah, moi plus. C'est d'ailleurs dans l'un de, je l'avais déjà dit dans une autre radio, à force d'aller à vouloir laver le cerveau d'un âne, on y perd sa lessive.
Bon allez, vive Messi quand même. Ouais. Le Stade de France à l'heure de la Ligue 1 ce soir, l'enceinte parisienne qui a accueilli par le passé une finale de Coupe du Monde, deux finales de Ligue des Champions, eh bien propose une affiche de Ligue 1 française, donc championnat avec le RC Lens et le Paris Saint-Germain. Alors, on vous l'explique ou le réexplique, les Lensois en fait jouent à domicile, hein, mais ils sont un peu loin de leurs terrils qui sont au nord, à 200 km de là, mais les Sang et Or devraient remplir les tribunes. Ils ne jouent pas chez eux parce que le stade est en rénovation pour l'Euro 2016. En tout cas, des 80 et quelques mille spectateurs, il y en aura peut-être 50 ou 60 000. Et même à quelques enjambées du Parc des Princes, eh bien, on imagine que des dangers guettent ce soir plutôt l'équipe parisienne, troisième de Ligue 1, on le rappelle, à 7 points de Marseille. D'abord, Lens, qui est certes 18e au classement, mais connaît bien des déboires cette saison, voudra peut-être, sans doute, élever son niveau face aux Parisiens, et aussi parce que l'entraîneur Antoine Comboiré connaît bien cette équipe.
Match normal parce que c'est un match de championnat, il y a 3 points en jeu, et puis après, pas tout à fait normal en ce qui me concerne, parce que c'est vrai que c'est le club qui compte quand même pour moi. J'y ai passé presque, un peu plus de 13-14 ans, voilà. C'est un club qui marque parce que c'est le club qui m'a appris à gagner, hein. Donc forcément, match particulier. Mais après, j'ai forcément envie d'essayer de grappiller un point, un minimum, hein. Puis après, on verra, mais en tout cas, on s'attend à un match très compliqué.
Alors, grappiller un point, ça veut dire que ça serait un match nul. Finalement, le PSG nous a habitués à beaucoup de matchs nuls ces temps-ci. Peuvent-ils le faire, selon vous, Xavier?
Très franchement, j'y crois pas du tout, parce que d'abord...
Mais la pelouse est pourrie,
vous savez.
Attendez, mais d'abord, Lens...
La pelouse, on en parlera après. Lens, d'abord, on parle de Lens.
Lens qui vient recevoir le PSG dans un presque stade parisien, c'est vraiment faire un cadeau au PSG qui sera la seule équipe de première division.
Il y aura peut-être beaucoup de Lensois, quand même.
Mais c'est un vendredi soir, Annie. Oui. Ils auraient fait le match un samedi après-midi. Encore, les Lensois auraient eu le temps de venir. Mais même s'il y a eu cette triste...
Je crois que cette date, ils l'ont réservée depuis longtemps, à mon avis.
Non, parce que les affiches dans le métro montraient encore que le match aurait lieu ce week-end-ci à Paris.
Oui, mais...
Mais on ne savait pas encore à quel moment.
C'est à cause de la Ligue des Champions qui se jouera dans 4 jours.
Voilà, absolument. Je l'avais tweeté à l'époque. Faire le match en plus le vendredi soir, c'est faire un cadeau supplémentaire au Paris Saint-Germain. Parce que les supporters de Lens, qui sont pourtant nombreux et qui sont frustrés cette saison, parce qu'ils doivent aller à Amiens, où il n'y a que 12 000 000 places, alors que d'habitude ils remplissent pratiquement les 40 000 places du stade Bollaert, eh bien là ils ont même pas le temps de venir, en tout cas ceux qui travaillent, et contrairement à cette triste banderole qu'avaient affiché certains supporters parisiens, je pense que dans le Nord il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent et qui travaillent bien, même s'il y a un fort taux de chômage. Donc effectivement les Lensois, les supporters des Sang et Or n'auront pas le temps de venir ce soir. Donc
le Lens
va jouer à l'extérieur et le PSG sera la seule équipe de Ligue 1 qui aura 20 matchs à domicile contre 19 aux autres.
Alors, le niveau de cette équipe de Lens peut-il gêner le Paris Saint-Germain?
Il y a la faiblesse de Lens et l'extrême médiocrité de Paris. Donc, ça, avec une pelouse,
ça s'équilibre.
Avec une pelouse pas terrible, ça peut s'équilibrer. Maintenant, les Lensois, comme ils le disent eux-mêmes, de par leur capitaine Lemoigne, ils vont se battre vaillamment. Donc, voilà, en jouant bien défensivement, parce que ils l'ont annoncé, hein, donc ils font pas le jeu, quoi que ce soit. Ouais, ils peuvent tenir le 0-0 et puis profiter des petits contres qu'ils auront. Mais en principe, comme disait Xavier, ça c'est le principe. Paris a l'air supérieur sur le papier, mais c'est tellement médiocre actuellement. Avec ou sans les tauliers, c'est pas bon de toute façon, donc tout peut arriver.
Justement Rémi, la chose inédite ce soir, en plus de jouer pratiquement chez soi mais en étant hôte, c'est que il y a une défense inédite dans ce Paris Saint-Germain, n'est-ce pas Eric?
On appelle ça une défense?
Ils appellent ça une défense.
Ouais, non, mais c'est la première titularisation de Thiago Motta en défense centrale, ça va être assez étonnant. Bon, Zoumana Camara, lui, il a toujours joué les pompiers de service, il sait le faire, donc on peut lui faire confiance. Mais
Thiago Motta, il a déjà fait un bout de match, hein, en charnière centrale.
Une fois, en fin de match. Il a quand même 10 ans qu'il n'a pas joué à ce poste-là.
Il n'a jamais démarré un match à ce poste-là au Paris Saint-Germain, en tout cas. Mais c'est étonnant comme association.
Vous êtes quand même aussi en train de me surprendre parce que vous dites que Thiago Motta, il a joué, mais même c'est lui aujourd'hui qui peut quand même dire que Lens a une grande attaque, mais sur les 4 derniers matchs, ils ont marqué un seul but. Donc,
c'est ce qu'on dit.
Donc, Lens déjà n'a pas d'attaque, Lens perd beaucoup, et malheureusement, les équipes d'Antoine Comboiré en dehors du Paris Saint-Germain, j'ai par exemple vu son passage à Valenciennes, il n'avait jamais gagné pendant toute une saison à l'extérieur. Alors, va-t-il subitement se mettre avec cette équipe?
Mais il n'est pas à l'extérieur, là, Rémi.
Là, il est à domicile.
Lens est à l'extérieur. Lens est à Paris.
Lens est à déplacement.
Alors, comment est-ce qu'il va gagner? Moi, je ne vois pas ça. Et franchement, cette équipe de Lens, il faudrait déjà, comme Antoine Comboiré lui-même le dit, que c'est un miracle si cette équipe se maintient. Donc, comment est-ce que cette équipe va réussir à contrecarrer Paris Saint-Germain? Moi, je ne vois
pas. Quelle équipe de Paris, Rémi? Quelle équipe?
Mais attends, tu es là, shérif. Là, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que quand tu dis le Paris Saint-Germain, il n'y a plus rien. Contre Monaco, ils font 1-1 dans les arrêts de jeu. Contre Barcelone, ils ont été très bons. Ils gagnent 3-2.
Oublie la Ligue des Champions, ils choisissent leur match. Continue.
Voilà. Bon, à Toulouse, ils font effectivement que 1-1. Le déplacement à Caen, on les avait mis en cause. Ils gagnent 2-0.
Et Lyon?
Effectivement, Lyon, qui est une équipe qui revient bien.
Ça fait beaucoup.
Alors, ils ne gagnent pas forcément. Mais ils sont invaincus déjà. Ils ne perdent pas du tout.
Mais j'ai pas dit qu'ils allaient perdre. J'ai dit qu'on était parti sur un match nul.
Non, mais moi je pense pas. Non, je pense qu'ils vont gagner ce match-là. En plus, comme tu le sais, il y a un certain nombre de joueurs qui ont pu se reposer parce qu'ils n'étaient pas appelés en équipe nationale pour la trêve internationale, notamment Edinson Cavani, qui n'a pas fait les déplacements avec l'Uruguay.
Donc, c'est entraîné.
Tout est réuni pour que le Paris Saint-Germain
sur le papier. Je suis d'accord avec toi.
Alors le problème que soulevait tout à l'heure Chérif, c'est ce problème de la pelouse et Laurent Blanc. Justement, il en a parlé parce que il a dû voir, comme nous tous, un certain France-Portugal.
Ce qui m'inquiète, mais bon, les gens vont sourire encore, c'est d'après ce que j'ai vu, la pelouse du Stade de France. Bon, j'ai beaucoup de respect pour l'équipe d'Antoine, de Lens, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est le Stade de France. La pelouse, c'est une catastrophe. Je vous dis comme je le pense, c'est une catastrophe, cette pelouse. Elle a jamais été bonne, d'ailleurs. Elle se dérobe, j'en ai discuté avec Blaise et Johan Cabaye. Je sais pas comment on peut avoir une pelouse dans un tel état, c'est incroyable, quand même.
Bon, les bruits que vous avez entendus, c'est Laurent Blanc qui tape dans le micro, c'est pas nous. Xavier.
C'est amusant ce que dit Laurent Blanc, parce qu'effectivement, c'est ce que disait Johan Cabaye ce week-end au Stade de France après le match France-Portugal.
On a vu des
pour un match de prestige comme ça sur une pelouse aussi.
On a vu des bouts de pelouse sous les crampons des joueurs.
Mais Johan disait effectivement, de toute façon, la pelouse ici, elle a jamais été bonne. Et c'est un vrai problème.
Non, mais quand Laurent Blanc dit ça, il a quand même joué un quart de finale, c'est ça, et une demi-finale, il y a bien longtemps sur cette pelouse.
De Coupe du Monde. Oui, alors, ils avaient beaucoup beaucoup travaillé pour cette Coupe du Monde. Le stade, en plus, n'existait, n'avait été ouvert que 6 mois auparavant. Mais là, il faut savoir qu'il y a des événements. Là, il y avait le concert, je crois, de Beyoncé.
Et un match de rugby.
Il y a du rugby. Voilà. Or, on sait très bien aujourd'hui qu'un stade de foot, on peut pas l'utiliser pour jouer en même temps du rugby avec des joueurs, des qui vont labourer la pelouse. Voilà, c'est pas possible. Le Parc des Princes aujourd'hui, pourquoi on a construit Jean Boin juste à côté pour les rugbyman, c'est parce qu'au Parc des Princes, ils voulaient plus aujourd'hui jouer au foot et puis qu'il y ait un match de rugby derrière. Voilà. Donc ça c'est le PSG a investi, j'ai eu l'occasion de visiter ces installations pour plus de 10 millions d'euros dans un système alors je vais pas faire de détails techniques,
un système d'ampoule,
voilà, qu'on met sur la pelouse dès que le match est terminé pour refaire pousser la pelouse même en plein hiver de façon à ce qu'elle soit plus dense, qu'elle soit meilleure. Et pourquoi? Pour éviter les blessures, parce que justement ils estiment qu'un joueur blessé ça coûte tant et que cet investissement il vaut parce que justement les joueurs se blessent moins sur un bon terrain. Et là effectivement
Arsenal, ils ont un billard, les joueurs sont toujours blessés.
Heureusement, tu as arrêté ce gars qu'on appelle Xavier Barré, qui veut toujours venir avec des démonstrations.
Le coup des ampoules, je connaissais pas.
Voilà, il dit, voilà, les rugbymen ont tué Beyoncé, la boule et le stade. Moi, j'étais au concert de Beyoncé. Tu ne sais pas quand est-ce que ça s'est passé. Et accepte ce longtemps, Xavier Barré. Donc, ne nous prends pas les trucs de très longtemps pour nous dire. On a vu l'équipe de France. Jouer dans ce stade-là. Et l'équipe de France a bel et bien battu le Portugal sur ce stade-là. Et pourquoi est-ce que Paris Saint-Germain aujourd'hui est en train de vous parler de la qualité du stade? Mais on a vu Paris Saint-Germain trimer contre Reims. Le stade était très bon. Est-ce qu'ils ont battu Reims? Ils ont trimé. Ils tombaient seuls. Donc, à une certaine période, lorsqu'ils ne parviennent pas à jouer, ils vont dire que c'est à cause du stade. Il y a un proverbe africain qui est clair. Quand le danseur ne connaît pas danser, il accuse l'état du sol qui est bousselé.
Ce qui est sûr, c'est que Laurent Blanc, en tout cas, pour aller dans le sens de Rémi, il ouvre le parapluie, quoi. C'est quand même bien pratique avant le match d'avoir de sortir ça, en plus de ces défenseurs centraux blessés, de cette équipe qui se cherche.
De Zlatan qui est encore.
Ils doivent jouer à 3 derrière, c'est pas un problème.
Encore en traitement.
Franchement, ils doivent gagner 3-0.
Eh bien, on verra ça.
Sur le papier.
Carton jaune.
Un carton jaune.
Oulala, carton rouge
dans la confusion,
carton vert,
extraordinaire,
rien à dire.
Shérif, votre carton?
Un carton noir aux irresponsables qui ont fait survoler le stade de Belgrade par un drone provocateur. Ça pourrait être déclencher une crise internationale, au moins entre deux pays.
Régionale.
Voilà, une crise régionale. Donc, c'est de la folie pure et simple.
De la bêtise.
Et j'irai pas plus loin.
Oui, d'ailleurs, on peut juste rajouter à ce sujet que l'UEFA aurait pu aussi éviter que ces deux équipes se retrouvent dans la même poule. Elle l'a fait pour l'Ukraine et la Russie, elle l'a fait pour Gibraltar et l'Espagne, elle aurait pu le faire pour l'Albanie et la Serbie. Je pense que ça aurait pas été une mauvaise idée.
Et carton noir parce que la fameuse banderole avec.
Dans ce cas, il faudrait que la Corée du Nord et la Corée du Sud ne jouent jamais. Attendez, c'est pas possible. On ne peut pas dire comme ça. On ne peut pas choisir parce que les équipes. Vous avez un passé qui est bizarre là et finalement. Peut-être si les Catalans aussi obtiennent leur indépendance, qu'ils ne se rencontrent jamais. On va faire par exemple que
pendant des années, les clubs turcs et les clubs grecs ne se rencontraient jamais parce que l'UEFA faisait en sorte au moment des tirages au sort qu'ils puissent pas se rencontrer pour éviter justement ce genre de débordement. C'est possible et ça n'a pas empêché les coupes d'Europe de maintenant.
Malheureusement,
pendant des périodes données.
Un carton.
Carton jaune à Jean-Michel Aulas. Je reviens sur cette histoire d'Ebola. Donc, Michel Aulas s'est saisi comme Médecins sans frontières et lui qui va saisir tantôt le syndicat des footballeurs professionnels, lui qui va aussi saisir toutes les associations de football professionnel en Europe pour que les footballeurs africains n'aillent même plus jouer dans leur pays. Mais Michel Aulas, il va empêcher les joueurs africains de rentrer dans leur continent parce qu'il y a Ebola. Mais Michel Aulas, il y a un proverbe africain qui est clair. La brebis ne refuse pas de téter sa maman, même si sa mamelle a la gale.
Michel Aulas. C'était Jean-Rémy Ngonneau.
J'y pour Rémy Ngonneau.
J'y pour.
On a même les jambes.
Moi, je vais mettre un carton vert à El Hadra, l'équipe nationale d'Algérie, et à son nouveau sélectionneur, Christian Gourcuff.
Oh,
parce que je trouve
facile.
Qu'il a fait. Ouais, c'est un peu facile, mais quand même, moi j'aime bien.
Non, l'équipe d'Algérie, pas toi, hein, l'équipe d'Algérie.
Il reprenait.
12 points.
Oui, mais bon, voilà, ils ont fait le boulot. Quatre matchs, ils sont mathématiquement qualifiés.
Les doigts dans le nez.
Ils sortaient d'une Coupe du Monde où pour Gourcuff, c'était risqué de prendre la suite d'Ali Lodzic parce qu'il y avait une belle Coupe du Monde. Il a réussi à maintenir ce groupe compétitif et ils sont qualifiés. Bravo.
Et dans le même sens que Xavier.
Un carton.
Eh ben, un carton vert aussi, mais à Florent Ibengue, hein, parce que qualifier l'AS Vita Club en finale de la Ligue des Champions et jouer les troubles faites dans les éliminatoires de la CAN à la tête de la RDC dans un groupe où il y a deux mondialistes, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. C'est quand même pas mal et on lui souhaite bon vent à Florent Ibengue. Bah,
je vais surenchérir Eric, hein. Le carton vert de Radio Foot ira à l'attaquant de la RDC, Junior Kabananga, qui a sa première sélection à 25 ans et il a marqué un but absolument magnifique, vous l'avez vu Rémi, hein.
Terrassé.
Ce but, contrôle de la poitrine et un retourné dans la lucarne magnifique, c'était un ciseau, hein, comme on dit aussi.
On voit beaucoup de buts, jolis buts à cette, dans ces éliminatoires de
Cannes. Très beau, très beau.
Surtout lorsqu'on a aussi des défenses passoires comme celle de la Côte d'Ivoire.
Non, des beaux buts.
C'est pas faux.
Des beaux buts. Les passoires, les défenses, on peut en discuter. Mais il y a quand même des beaux gestes.
Mais c'est vrai que la RDC, du coup, se trouve relancée, hein, dans la course à la qualification. Elle est deuxième de son groupe, juste derrière le Cameroun.
Ah! Qui l'eût imaginé? On croyait que les sommets super. Ah non, mais ce n'est que ça que je disais. Qu'on se débarrasse de cette dépouille qui était pratiquement là avec des titres folkloriques, ces vieux lions qui venaient embobiner
les nouveaux?
Les nouveaux, ils sont magnifiques, ils jouent superbement bien. Cette fois-ci, le Cameroun a une équipe. En ce temps, on avait un conglomérat de soi-disant stars, mais qui étaient des starlettes.
Mais en tout cas, un carton vert, hein, toutes ces équipes africaines qui nous ont vraiment passionnés toute la semaine et on vous l'avait dit dans l'émission mercredi soir. C'est la fin de cette semaine de Radio Foot. Merci beaucoup messieurs. Merci aussi à Jean-Pierre Bessière qui m'a aidé à préparer l'émission et qui reviendra bientôt. Et Abdel Marzouk qui lui est à la réalisation. On se dit à lundi.